Et on va pouvoir passer à la séquence suivante. En l'occurrence, soins sans consentement. Trois interventions étaient prévues. Il n'y en aura que deux. Pascal Mariotti.
Alors j'ai trois petites choses. Sur toutes ces questions juridiques et en particulier le droit des patients, le site de l'ADESM est plutôt très riche, puisque régulièrement alimenté sur toute l'actualité juridique, donc je vous invite à le consulter. Vous aurez compris également donc, que la logique de la journée, ça a été de ne pas focaliser directement sur le thème sans doute le plus immédiatement d'actualité, à savoir l'isolement et la contention, ne serait-ce que parce que les colloques et les échanges sont nombreux en la matière, et donc de revenir sur la question des droits et libertés des patients, mais sous la logique donc des libertés publiques. Alors, pour expliquer donc le reformatage auquel on va se livrer tout de suite et qui va induire pour François Courteau, qui lui donc anime un groupe qu'on a créé cette année à l'ADESM, mais qui est un groupe pluriprofessionnel sur les droits et libertés des patients. Pour vous expliquer ça, en fait, donc Magali Coldelphi, qui est intervenue hier sur un autre sujet, en est bien désolée, mais sur une étude qu'elle a, si j'ai bien compris, terminée ou finalisée depuis le premier semestre, l'adresse pour laquelle elle travaille à cette occasion ne lui a pas donné donc l'autorisation d'en faire mention aujourd'hui, au motif que cette étude ne serait pas validée. Donc on prendra cette décision comme telle, je la trouve un peu incongrue, malheureusement Magali n'y est pour rien, pour des données qui après tout sortent de nos établissements. Mais c'est vrai que, comme on le dit souvent, à la fois les éléments de langage et la peur qu'on a de son nombre, fait que finalement les données arrivent toujours trop tard et quand elles ne servent plus forcément directement à alimenter la décision et l'action des établissements. Ça c'est une réflexion personnelle. Donc cela étant, on va faire comme si, je crois qu'on sait tous à peu près ce qu'il en est. Alors certes, il y a des exceptions, mais le constat auquel on est confronté, c'est que grosso modo, les placements en soins sans consentement ne diminuent pas, qu'ils ont plutôt tendance à augmenter, mais selon des dynamiques variables par région et par établissement, elles-mêmes dépendantes de dynamiques ou de situations antérieures. Il n'y a pas que des phénomènes nouveaux qui seraient apparus en fonction des conséquences de la loi. Alors on l'évoquait l'autre jour à Blois avec Denis Robillard, je m'interrogeais quant à savoir si l'objectif de la loi de 2011, modifiée 2013 surtout, visait ou non à faire baisser le recours aux soins sans consentement. C'est une question peut-être d'appréciation sur laquelle il faudra revenir. Ensuite, on a cette question qui nous préoccupe des déplacements en SPI. Alors s'agissait-il de faire baisser les placements sur décision de l'autorité préfectorale? S'agissait-il de répondre à d'autres problématiques? Là, je crois qu'il faudra aussi y revenir. Et je pense que ce qu'on a mal apprécié à l'époque, et il va falloir y retravailler, c'est la puissance et qui alimente mécaniquement les placements en SPI du passage par les urgences. Et en particulier le fait que, je dirais, les patients de la psychiatrie, notamment sur les phases de crise, et ce n'est pas uniquement la conséquence de difficultés d'accès aux dispositifs généralistes de prise en charge de nos établissements. Les patients de la psychiatrie, alors c'est rassurant sur le fond, c'est inquiétant sur la conséquence, se comportent comme le reste de la population, c'est volontaire, se comportent comme le reste de la population et accèdent de plus en plus couramment et massivement aux urgences, ce qui sans doute alimente mécaniquement des flux de placements en soins sans consentement qu'après tout le régime juridique permet. Donc je m'arrête là sur l'interrogation, voilà. Mais il faut à tout prix y revenir.
D'accord, on y revient dans les présentations et dans les échanges. Donc j'invite François Courteau d'une part et Maître Denis Robillard d'autre part à monter sur la scène. Monsieur Maître Robillard s'installera à côté de moi, Monsieur Courteau se mettra là-bas au pupitre. François Courteau, donc, qui est directeur du centre hospitalier de Rouffach. Donc comme le disait Pascal, coordonnateur ADESM de cette commission droits et libertés des patients. Quant à Maître Denis Robillard, je rappelle qu'il est député de la première circonscription de Loir-et-Cher et membre de la commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale. Voilà. Monsieur Courteau, nous vous écoutons. Et vous avez 15 minutes. Carton jaune à 5 minutes de la fin. Et rouge, si vous arrivez au bout.
On va s'employer à y arriver. Bon, je ne sais pas s'il me reste quelque chose à dire après le passage de Pascal Mariotti. Je vais quand même essayer d'apporter quelque chose, quelques points au débat. Alors, on a constitué au sein de la DESME un petit groupe composé de directeurs d'établissements, de juristes de nos établissements et de professionnels de santé pour réfléchir surtout ces derniers temps sur la question de l'isolement et de la contention.
Est-ce que vous entendez bien ?
Je me rapproche du micro, de l'isolement et de la contention, j'en parlerai quand même un petit peu à la fin. Et puis, sur la question plus générale des soins sans consentement, et on a donc une réflexion qui porte sur des aspects législatifs, mais aussi sur la mise en pratique de ces textes réglementaires. Alors, il y a trois grandes lois qu'on peut regrouper en deux. Tout ce qui tourne autour de la loi de 2011 et de la correction à la loi de 2011 apportée par celle de 2013, donc c'est les consentements, ou plutôt l'absence de consentement. Et puis la loi de 2016, pour son article désormais bien connu, qui est l'article 72, qui traite de la question de l'isolement et de la contention. La grande nouveauté de la loi de 2011, ça a été la mise en place du programme de soins. Tout le monde a, dans un premier temps, vu cette affaire de programme de soins comme quelque chose d'extrêmement positif et comme l'apparition d'une souplesse qu'on n'avait pas jusque-là. Et puis, on a pris conscience rapidement que les sorties étant limitées à 12 heures, on pouvait avoir un certain nombre de difficultés dans le continuum qui devait exister entre le statut d'hospitalisation temps plein et le retour dans une vie habituelle, dans une vie normale des patients, puisque la logique, bien sûr, qu'on cherche à avoir, c'est de faire en sorte que le passage dans une séquence de soins sans consentement ne soit qu'un passage, qu'il soit aussi court que possible, et que la possibilité de réinsertion et la limitation de la désinsertion soient aussi rapides que possible. Or, la loi de 2011, en mettant en place le programme de soins, n'avait pas permis de favoriser le continuum entre l'un et l'autre. Ce qu'on constate en termes de programme de soins, et c'est un certain nombre d'études qui commencent à le montrer, c'est que près de la moitié des patients sont concernés, enfin, près de la moitié des patients qui sont en soins sans consentement sont concernés par un programme de soins. On constate aussi que sur cette question du programme de soins, il y a de grandes disparités régionales. Et de toute façon, dans tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, on voit qu'il y a de grandes disparités régionales, ou de grandes disparités départementales même, sans qu'on sache, dans aucun des domaines, véritablement expliquer la raison de ces disparités. Mais ce qu'on sait, c'est qu'elles existent. Ça, c'était la loi de 2011. La loi de 2013 a visé à corriger un certain nombre des inconvénients qui étaient apparus dans la loi de 2011. Mais la question qu'on peut se poser, c'est qui a profité de la loi de 2013 ? Est-ce que ce sont les patients ou est-ce que ce sont les médecins ? Alors je vais faire une réponse de Normand, c'est sans doute un peu les deux, mais c'est d'abord les médecins. Alors pourquoi un peu les deux ? Parce que, contrairement à ce qu'on peut imaginer, je ne sais d'ailleurs pas si on l'imagine sous cette forme-là, mais en tout cas, la loi de 2011, les gens ne l'ont pas appliquée strictement, et les difficultés qu'on avait rencontrées sur ce continuum entre le programme de soins et l'hospitalisation temps plein, les psychiatres ont tenté de le corriger, et il y a eu un certain nombre de contorsions qui ont été faites pour permettre de régler cette question des permissions de sortie. Et vous savez que la loi de 2013 a désormais autorisé deux types de permissions de sortie. Des permissions de sortie de 12 heures maximum, qui sont des permissions de sortie accompagnées, et des permissions de sortie de 48 heures pour des patients non accompagnés. On voit bien là qu'on est dans une logique où on essaie de faire sortir le patient tout seul pendant une période qui généralement correspond à un week-end, l'idée étant de mesurer dans quelle mesure le patient est en capacité de retourner dans sa vie ordinaire. Auparavant, avec la loi de 2011, les psychiatres n'avaient pas évidemment complètement coupé les choses et ils avaient inventé toute une série de formules, des programmes de soins qui duraient 48 heures, enfin toute une série de choses un peu tordues juridiquement qui permettaient malgré tout, et c'est pour ça que je dis que la loi a quand même profité aux deux, le patient n'avait pas été oublié entre 2011 et 2013, bien sûr, mais on a simplifié les choses et clarifié les choses dans le cadre de la loi de 2013. Deuxième élément, et ça va là dans le sens clair de la simplification pour le médecin, on a supprimé toute une série de certificats qui n'apportaient pas grand-chose dans le contrôle de la régularité de l'hospitalisation, ni même dans la protection du patient. Et donc on a supprimé le certificat de huitaine et on a supprimé l'obligation d'avoir deux avis de médecin pour saisir le juge des libertés et de la détention. Dernier point qui apparaît clairement dans la loi de 2013, qui est un paradoxe apparent, mais qui peut s'expliquer, c'est que le programme de soins sans consentement doit se dérouler sans contrainte. Alors, c'est un paradoxe, parce que si les soins sont sans consentement et que le programme de soins est sans contrainte, on peut, par certains côtés, échapper au programme de soins. Et ça fait courir le risque d'avoir des allers-retours entre la partie hospitalisation temps plein et la partie programme de soins. Et on constate effectivement qu'il y a des situations dans lesquelles il y a des échecs de programme de soins qui conduisent à des retours en hospitalisation temps plein. Ensuite, c'est quand même compréhensible, puisque justement l'objectif du programme de soins, c'est de faire en sorte que le patient retrouve une autonomie ou la perde le moins longtemps possible. Et puis, de façon relativement concrète, on a du mal à se projeter dans un exercice de contrainte dans les domiciles de patients, enfin dans toute une série de formes de mise en pratique réelle. Dans l'évolution entre la loi de 2011 et de la loi de 2013, il y a eu également la question de la place du tribunal. Alors, de façon générale, la place du tribunal, on peut la voir comme une interrogation pour savoir si c'est le tribunal qui va à l'hôpital ou si c'est l'hôpital qui va au tribunal. Alors cette interrogation, ça n'est pas qu'une interrogation physique, c'est aussi une interrogation symbolique, aussi bien pour l'organisation que pour les patients eux-mêmes. Au départ, le contrôle du juge est un contrôle qui se fait a posteriori. Là-dessus, je pense que ça a déjà été évoqué, la place du juge, personne ne la conteste. Il y a eu un choix qui a été fait à un moment, qui a été de privilégier un système qui permettait les hospitalisations soit à l'initiative, ou en tout cas du fait d'une décision du directeur de l'établissement, soit du fait d'une décision du représentant de l'État, le préfet. Et le juge donc n'intervient qu'ensuite pour vérifier si les choses se sont faites de façon légale. Dans un premier temps, donc entre 2011 et 2013, le contrôle formel du juge était porté par le juge administratif. Donc on avait deux contrôles possibles. Un contrôle par le juge administratif sur le caractère formel des décisions, et puis un contrôle fait par le juge judiciaire, le juge des libertés, sur le déroulement lui-même de cette hospitalisation. Avec le temps qui passe et avec la pratique, la question qu'on pose aujourd'hui, c'est la question de la place du juge et également la question de la place de l'avocat. Alors j'espère, je suppose que les tables rondes qui existeront par la suite permettront de clarifier un peu les choses, mais sans commenter les décisions de justice, puisqu'on ne le fait pas, par contre, on peut discuter des positions des avocats, on peut se demander quel est le rôle de l'avocat. Est-ce que l'avocat se place comme le défenseur d'une personne qui est victime d'une institution qu'il a hospitalisée sans consentement? Ou est-ce que l'avocat prend en compte le fait que l'hospitalisation sans consentement vise à favoriser le soin de la personne, qu'elle poursuit un objectif positif pour elle, et qu'il y a aussi un risque à utiliser uniquement des arguments juridiques pour faire ressortir une personne qui serait victime d'un système? Alors, comme toujours, il n'y a pas de position univoque. Il y a sans doute des positions individuelles. Il y a dans certains cas des demandes des patients qui font appel à un avocat et qui sont aussi en droit d'avoir un point de vue, bien entendu. Mais on a pu sentir dans les évolutions mois après mois une façon différente de faire des avocats dans ces domaines. A disparu en 2013 ce qu'on a un peu schématiquement appelé le casier, oula, ça va encore plus vite que je pensais, le casier psychiatrique. On n'a donc plus de possibilité de repérer qui a été passé dans une unité pour malades difficiles ou qui a été hospitalisé une fois ou l'autre. Le résultat, c'est que les patients sont quelquefois, c'est en ça que l'image du tribunal à l'hôpital, de l'hôpital au tribunal se joue, les patients sont parfois en difficulté et nous renvoient l'idée, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal, pourquoi je vais voir le juge? Et c'est évidemment encore plus prégnant quand les tribunaux, malgré le fait qu'ils aient maintenant l'obligation de siéger à l'intérieur des établissements de santé, ne le fassent pas. Ça arrive encore, c'est marginal, mais il y a encore des tribunaux qui ne le font pas. Soins consentement, soins sous contrainte. Donc je rappelle que le Code de la santé publique prévoit que le consentement libre et éclairé de la personne est un préalable à l'acte médical ou à l'acte de soins. Les traitements sans consentement vont bien sûr à l'encontre de cette règle, mais nous dit-on, et il y a une grande variabilité selon les équipes, l'avis de la personne doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. La question qu'on peut se poser à ce moment-là, c'est est-ce qu'il s'agit d'une pétition de principe ou est-ce qu'il s'agit d'un véritable principe, d'une pétition de bonnes intentions plutôt, ou d'un véritable principe, le véritable principe étant lié à une évolution de la culture qui veut que dans le cadre d'un rétablissement, on s'attache à faire en sorte que le plus tôt possible, le patient puisse être associé à ses soins. Les usages contrastés, les nouvelles modalités. Je fais rapidement, puisque le temps passe. On a probablement...
Vous êtes en retard d'une slide.
Pardon ?
Vous êtes en retard d'une slide. Il faut aller plus loin. Voilà, merci.
Excusez-moi. On a probablement une hausse des soins sans consentement, une variation qui pourrait être de 1 à 5 en termes de taux de recours. Et sur une période de 5 ans, on constate que dans certaines régions, on a des diminutions d'hospitalisation sans consentement. Et dans d'autres, enfin, dans certains départements, on a une diminution. Dans d'autres, on a carrément des doublements. C'est là où je vous dis qu'il peut y avoir des grandes disparités selon les régions. On a, et ça, ça a été constaté dans la pratique, une augmentation très sensible des soins, de la procédure pour péril imminent. Sans doute parce que la procédure de soins à la demande du représentant de l'État est une procédure lourde. Et puis, comme le disait Pascal Mariotti tout à l'heure, le recours aux urgences est sans doute une explication, puisque la recherche du tiers n'est plus nécessaire. De ce fait, on peut reposer la question qui était celle qui avait existé au moment de la loi de 2011. Est-ce que le recours au juge doit être un recours a posteriori ou un recours préalable, et doit-on maintenir cette distinction entre des soins pour protéger la société et des soins pour protéger la personne? Contention et isolement, rapidement. Il n'y a pas d'ambiguïté sur le fait que l'article 72 de la loi de 2016 est un article qui est vécu positivement, en tout cas par les directeurs d'établissement. Ça pose un problème qui est un problème réel. En même temps, et c'est un peu paradoxal, la loi, en parlant de l'isolement, l'officialise, même si elle en souhaite la réduction. Alors, je vous rappelle que dans cet article 72, on trouve trois choses. La définition d'un isolement ou d'une contention qui est une pratique de dernier recours, recensée dans un registre spécifique, et la nécessité d'avoir un rapport annuel pour expliquer comment on fait en sorte de diminuer le recours à ces pratiques. On souligne quatre contradictions que je présente très vite. Qu'est-ce qu'on compte ? Est-ce qu'on compte uniquement les chambres qui ont été spécifiquement aménagées pour faire des isolements, ou est-ce qu'on considère comme lieu d'isolement toute pièce fermée à clé ? De notre point de vue, à l'ADESM, on devrait compter la totalité des pièces qui sont fermées à clé, puisque sinon on a des risques de dérive, comme on a pu le voir tout à l'heure sur les soins en péril imminent, c'est-à-dire qu'on n'ira plus dans les chambres d'isolement, on ira dans des chambres fermées à clé, ça ne se verra pas. Deuxième point, qu'est-ce que la décision du psychiatre ? Est-ce que c'est une prescription banale, comme on le faisait avant, sauf que par erreur, le législateur a écrit « décision » ou est-ce que le mot « décision » a du sens ? Nous pensons à l'ADESME que le mot « décision » a du sens. S'il n'y a pas une clarification réglementaire, ça sera probablement la jurisprudence qui clarifiera les choses. C'est toujours plus compliqué quand c'est fait de cette façon-là, mais s'il faut en passer par là, c'est sans doute comme ça que ça se passera. Quels sont les patients ? Notamment, qu'est-ce qu'on fait avec les détenus, qui sont quelquefois orientés dans nos établissements, avec le risque pour l'établissement de devenir... je suis en avance, possiblement, décidément.
Mais c'est bien, de toute façon, il va falloir aller à la conclusion, on a dépassé déjà.
Donc les détenus, qui, au risque de l'hôpital de se transformer en administration pénitentiaire, et quid des mineurs, pour qu'on protège quelquefois dans les services adultes. Ensuite, dernière chose, que deviennent les pratiques dans ces chambres d'isolement ? Est-ce qu'on est réellement dans une pratique de dernier recours sans que la notion de soin existe encore ? C'est simplement le patient se retrouve dans cette chambre-là parce qu'on ne sait plus quoi faire. On ne sait plus pourquoi on l'y met, mais en tout cas, on sait qu'on ne peut pas faire autrement. Ou est-ce qu'on reste dans une démarche thérapeutique ? Il y avait un référentiel de l'ANAS. On sait que la HAS travaille sur cette question-là. Et on peut attendre des éclaircissements. En conclusion, la question est évidemment une question qui reste tout à fait sensible. Ça pose toujours la question du lien entre les libertés publiques au sens collectif du terme et de la pratique individuelle et des contradictions individuelles des individus. Ça pose également la question de l'évolution qu'on peut avoir dans ces pratiques du fait d'une volonté de développer une santé mentale communautaire qui repose sur de la prévention, sur de l'éducation, sur de la réinsertion, sur de l'accompagnement à domicile. Et les réflexions de la HAS, notamment sur l'évitement des situations de violence, peuvent nous permettre d'avancer sur ce point. Je vous remercie.
Merci. On aura l'occasion tout au cours de la journée, évidemment, d'échanger autour de cette thématique, hein, on est d'accord.